soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie.
Bon, écoutez, Mozart, Beethoven, Schubert, Rossini et tutti quanti, c'est tutti quanti. Pour écouter des adagios, des allegros, des moderato et tutti quanti, c'est tutti quanti, votre magazine consacré à la musique classique de Radio MDM. Un magazine préparé par Alain Bont avec à la technique le fidèle Arnaud. Arnaud qui a révisé son russe aujourd'hui parce que nous allons parler d'un interprète russe. Et quel interprète ? Sviatoslav Richter. Probablement l'un des plus grands pianistes du siècle. Il a couvert d'ailleurs à peu près tout le XXe siècle, puisqu'il est né en 1915 et il est mort en 1997. Un destin assez étrange que celui de Richter, parce que on pourrait se dire qu'il a une voie toute tracée, puisque son père était pianiste. Sauf que son père, au début de la vie de Richter, ne s'est pas beaucoup occupé de lui. Il faut dire que la vie était un peu mouvementée quand même en Russie dans les années 15-20. Donc, en pleine guerre civile, Sviatoslav Richter est plus élevé par sa tante que par son père. Et il s'intéresse plus, en tant qu'enfant d'ailleurs, aux arts plastiques qu'à la musique. Et ça n'est qu'un peu après où, sans vraiment le soutien de son père, il va commencer à s'intéresser de très près à la musique et au piano. Et là, les choses vont aller très vite puisque... À l'âge de 15 ans déjà, il devient répétiteur à l'Opéra d'Odessa. Donc le répétiteur, c'est celui qui fait travailler les chanteurs. Richter aura toute sa vie une passion pour l'opéra. Il connaissait de mémoire tous les opéras de Wagner, par exemple. Et puis, il va s'imposer donc comme pianiste. Il va décider de se perfectionner. Et en Russie, pour se perfectionner, on va au conservatoire Tchaïkovski. On va dans la classe d'un pédagogue absolument incroyable qui s'appelait Heinrich Neuhoff, qui a formé vraiment une pelletée de pianistes russes. Neuhoff qualifiait Richter de élève de génie qu'un professeur attend toute sa vie. On va écouter tout de suite quelques notes sous les doigts de Sviatoslav Richter. On va commencer par du Bach, parce que c'est toujours bien de commencer par du Bach. Voici le prélude et fugue en si bémol mineur, BWV 867.
Thank you.
Joseph Richter s'est toujours imposé comme un musicien, j'allais dire modeste. En tout cas, pour lui, le rôle de l'interprète n'est vraiment que de servir le texte. Je voudrais vous lire un petit extrait d'une déclaration de Richter. L'interprète est vraiment un exécutant, devant reproduire les intentions du compositeur à la lettre. Il ne doit rien ajouter qui ne soit pas déjà dans l'œuvre. S'il est talentueux, il nous permet d'entrevoir la vérité de l'œuvre, ce qui est en soi un élément du génie qui se reflète en lui. Il ne doit pas dominer la musique, mais devrait se dissoudre en elle. Après Bach, tout à l'heure, on va rester avec de la musique baroque, avec un extrait d'une suite de Haendel. C'est un recueil qui a été publié dans les années 1733. C'est la 12e suite, dont on va écouter tout de suite la gigue, interprétée évidemment par Sviatoslav Richter. Anniversaire aujourd'hui, anniversaire un peu triste puisque c'est l'anniversaire d'un décès. Le 20 décembre 1974, donc il y a 50 ans, mourait André Jolivet, un compositeur français important qui était né en 1905. Il est surtout connu pour avoir rejoint un petit groupe de compositeurs en 1936, ce petit groupe qui s'appelait Jeune France, dont le but était de promouvoir la musique française et de, je cite leur manifeste, « propager une musique vivante dans un même élan de sincérité, de générosité et de conscience artistique ». évidemment le compositeur le plus important de ce groupe Jeune France, c'était Olivier Messiaen. Mais il y en avait d'autres, donc un petit peu moins connus, comme Yves Baudrier ou Daniel Lesur, et donc André Jolivet, dont nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de la mort. Dans les années 50, il a composé un concerto pour trompette, qui était en réalité une commande, puisque le Conservatoire de Paris, à l'époque, commander des morceaux de concours et le concerto vient de là. Alors, je vous propose d'écouter une interview d'André Jolivet où il explique un petit peu ce qu'ont été ses objectifs quand il a composé ce concerto pour trompette. Et puis bien évidemment, après, on va écouter ce concerto qui sera interprété par Éric Aubier, accompagné par l'Orchestre Lyrique Avignon Provence, dirigé par François Bilger.
André Jolivet, en 1948, vous écrivez un concerto pour trompette.
Oui, le directeur du conservatoire de l'époque, Claude Delvincourt, me demandait les morceaux de concours pour les classes qu'il souhaitait tester pour leur niveau et leur qualité musicale. En 48, il m'a demandé le morceau de concours pour trompette, mais au lieu de composer le traditionnel morceau composé d'un mouvement lent et d'un mouvement rapide, j'ai écrit ce concertino en me fondant sur la forme thème varié. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour mettre en valeur toutes les possibilités techniques et expressives de l'instrument.
Il n'y avait rien pour la trompette solo au concert à ce moment-là ?
Depuis 1905, le grand cheval de bataille et le morceau des trompettes solistes, c'était la légende d'Enesco, qui évidemment était un peu dépassée.
Et le concertino surtout... de Loucheur, non ?
Le concerto de Loucheur est postérieur au mien. Le seul qui soit contemporain, c'est le concerto de Tomasi, qui est une œuvre pleine de mérite. Mais la légende d'Enesco, je vous disais, donc, était un peu dépassée du fait que, entre-temps, il y avait toutes les innovations des trompettistes de jazz et ces parties de trompette assez vertigineuses qu'ont écrites en particulier Stravinsky et particulièrement Ravel dans Daphnis et dans son orchestration des tableaux d'une exposition. Et Delvincourt souhaitait posséder, mettre au répertoire de la classe de trompette une œuvre qui assure que celui qui peut la jouer est capable ensuite d'entrer dans un orchestre et de jouer ses parties de trompette hérissées de difficultés dont je viens de vous parler.
Thank you. Thank you.
Alors, après Jolivet, on va revenir donc à notre interprète de référence, à Sviatoslav Richter, avec un de ses compositeurs de prédilection, Schubert. On va écouter le début seulement, parce que c'est une sonate qui est assez longue, mais on va écouter le début de la sonate numéro 18 en sol majeur, la Deutsche 894, et vous allez entendre que c'est un véritable moment de grâce. Richter a enregistré plusieurs fois cette sonate. La version que j'ai choisie est une version en concert. On entend rarement ce mouvement aussi lent, mais avec une lenteur très très habitée, comme si dans le silence qu'il y a entre chaque note, Richter arrivait à nous communiquer énormément de choses. Sur cet aspect presque métaphysique, je voudrais là encore vous lire un extrait d'une citation de Richter. « Je ne suis pas un idiot complet, même si par faiblesse ou par paresse, je n'ai aucun talent pour la pensée. Je sais seulement comment la réfléchir. Je suis un miroir. La logique n'existe pas pour moi. Je flotte sur les vagues de l'art et de la vie et n'ai jamais vraiment cherché à savoir comment faire la distinction entre ce qui appartient à l'une ou l'autre, ou ce qui est commun aux deux. La vie se déroule pour moi comme un théâtre présentant une suite de sentiments un peu irréels, alors que les composantes de l'art sont une réalité pour moi et me vont droit au cœur. » On va voir que les composantes de l'art de Schubert sont très très présentes sous les doigts de Richter, donc dans le début de cette 18e sonate. Alors, comme beaucoup d'artistes russes, la carrière de Richter a été un peu entravée par la vie politique ou par la vie diplomatique. L'Union soviétique de l'époque rechignait à laisser sortir les artistes. C'était toujours dans des conditions très, très savantes. Il y avait une blague un peu courante à l'époque. On disait, vous savez ce que c'est qu'un quatuor à cordes? C'est un orchestre russe qui revient d'une tournée en Europe. Beaucoup de musiciens avaient tendance à fuir ce régime dictatorial. Richter a fait partie des derniers musiciens à pouvoir sortir, pour des raisons un peu obscures, sans doute son indépendance d'esprit. Il faut avoir à l'esprit que, par exemple, Richter, quand il était étudiant au conservatoire, s'est fait renvoyer deux fois. Il a été sauvé par son professeur, mais s'est fait renvoyer deux fois parce qu'il séchait les cours de marxisme-léninisme qui étaient obligatoires à l'époque au conservatoire. Ça n'est vraiment que dans les années 60 où il va pouvoir sortir un petit peu d'Union soviétique. Il va faire quelques tournées aux États-Unis qu'il détestait. Il déclarait n'aimer trois choses qu'aux États-Unis, les musées, les orchestres et les cocktails. Mais l'état d'esprit du public américain était quelque chose qui ne lui convenait pas du tout. Et c'était particulièrement flagrant dans le dernier concert qu'il a fait aux États-Unis dans les années 70. Il était avec un autre représentant de la musique soviétique, l'immense violoniste David Oistrakh. Et pendant le concert, il y a eu quelques manifestations anti-soviétiques, estimant que ces artistes n'étaient finalement que des représentants de commerce vantant un régime dictatorial qu'il fallait honnir. Bon, les concerts se sont passés quand même, mais Richter s'est dit qu'il n'y retournerait jamais. On va écouter un extrait de ces concerts. Donc ça se passe à New York en mars 1970. Sur scène sont David Oistrakh et Sviatoslav Richter. Ils choisissent un bis, c'est le scherzo de la 5e sonate de Beethoven, dite « Le printemps ». Évidemment, quand on est un pianiste soviétique, on travaille avec les compositeurs russes. Il y a une amitié extrêmement forte entre Prokofiev et Richter. Il faut dire que la carrière moscovite de Richter a été en partie lancée par son interprétation d'un concerto de Prokofiev, concerto qui avait été un bide quand Prokofiev l'avait créé avec lui-même au piano. Richter a repris cette partie de piano et c'est devenu une des pièces les plus jouées. Alors on va écouter, non pas ce concerto-là, mais une sonate, la 9e sonate de Prokofiev. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Tout simplement parce que Prokofiev l'a dédiée à son créateur, à Sviatoslav Richter. Voici donc la 9e sonate de Prokofiev. Thank you. Évidemment, quand on est un immense pianiste russe, on fréquente le répertoire russe. Et pour le piano, comment ne pas évoquer le concerto de Tchaïkovski ? Richter l'a joué maintes fois. Il y a une version discographique qui fait aujourd'hui référence, qui est une légende. Richter y est accompagné par l'orchestre philharmonique de Leningrad, avec à sa tête un des tyrans de la direction d'orchestre, probablement l'un des chefs les plus exigeants et les plus sévères qui soient, Mravinsky. On écoute le final de ce concerto pour piano opus 23 de Tchaïkovski.
petites notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs. Lèvent un cruel rideau de scène sur mille et une peines qui ne veulent pas mourir.
Trois petites notes de musique pour apporter un petit peu de légèreté après ce programme assez dense consacré à Sviatoslav Richter. Alors on a commencé par du Bach. Allez, on va presque finir avec du Bach. Je dis presque parce que la chanson que je vous propose date des années 70. Elle a été composée par Eric Chardin. Ça s'appelle Bach populaire. Et je suis pas peu fier d'avoir dans Tutti Quanti à la fois du Prokofiev du Bach et du Stone et Chardin.
Je m'appelle Jean-Sébastien et je compose de la musique très populaire. Ma femme qui fait cuire le lapin dans sa cuisine chante ma musique très populaire. Nos 12 enfants vont à l'école, ils marchent en sifflant ma musique très populaire. Et le dimanche sur de saintes paroles, les bons chrétiens chantent ma musique très populaire. Achetez du JS Bach, écoutez du JS Bach, consommez du JS Bach. Achetez du JS Bach, écoutez du JS Bach, consommez du JS Bach. J'ai débuté comme violoniste, mais j'avais déjà un physique très populaire. Vivaldi m'a traité d'arriviste, il est jaloux, ma musique est plus populaire. Tous les athées deviennent des fidèles, tout ça c'est grâce à ma musique très populaire. Je suis maintenant maître de chapelle, dit que Bach c'est une vedette très populaire.
Achetez JS Bach, écoutez JS Bach, consommez du JS Bach. Achetez JS Bach, écoutez JS Bach.
C'était donc Bach populaire, une chanson d'Eric Chardin qui termine ce Tutti Quanti. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans 15 jours. Et d'ici là, portez-vous bien.
Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie.